Bonjour. Au cas où ça vous aurait échappé jusqu'aux annonces, vous savez maintenant qu'on approche des fêtes de Noël. Mon goût pour la provocation ne s'est pas tari avec l'âge. Faut-il fêter l'anniversaire de quelqu'un dont Dieu a délibérément choisi de ne pas nous dévoiler la date de naissance? Formulée comme ça, la réponse est contenue dans la question. Mais je pense qu'on sera... Alors, le débat reste ouvert et je connais vos avis aux uns et aux autres sur ce point. Je pense qu'on sera en tout cas d'accord sur un point. C'est que si on décide de faire de Noël une fête de l'Église et une fête dans l'Église, il faut fermement marquer la différence entre ce qui relève du folklore et ce qui relève de la révélation. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Et comme je ne suis pas sectaire, parce que c'est aussi du sectarisme que de volontairement s'interdire de parler de Noël à Noël, de parler de Pâques à Pâques, etc. Et comme on est un peu de temps avant Noël, je vais parler ce matin de ce qui s'est passé un petit peu de temps avant la naissance de Jésus. Vous voyez, rien ne m'arrête. Matthieu, chapitre 1er, verset 18, un texte que tout le monde connaît bien. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et qui ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet, et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint, et elle va donner naissance à un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici que la Vierge concevra un enfant, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Quand il se réveilla, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il n'eut pas de relation sexuelle avec elle jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Joseph. Joseph, quelqu'un de tellement ordinaire qu'il n'y a rien à en dire a priori. Charpentier de son état. Donc sans doute charpentier comme son père était charpentier, comme son grand-père était charpentier. Et puis quelqu'un qui, de toute évidence, n'a pas révolutionné la charpente. Il a fait ce qu'il avait toujours vu faire. J'oserais presque dire quelqu'un de banal. Oh, il a bien un petit truc qu'il fait sortir de l'ordinaire. Un petit truc. Il a des rois dans ses ancêtres. Bizarrement. Alors, ça ne change rien pour sa vie, mais il se trouve qu'il est l'un des très nombreux descendants de David et donc de Salomon. Mais, encore une fois, ça ne le dispense pas de travailler, la preuve c'est qu'il est charpentier. Et puis, il partage ça avec un nombre considérable de gens, au point d'ailleurs que s'il prenait l'envie... un dirigeant politique, dont on sait bien que les dirigeants politiques, c'est fait pour faciliter la vie des gens, s'il prenait l'envie à un dirigeant politique d'organiser un recensement, comme les recensements, ça se fait dans le bled d'origine de l'ancêtre connu le plus lointain, et que là, en l'occurrence, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le roi le plus ancien dans ses ancêtres, avant d'être roi, il est hébergé dans un bled qui fait la moitié de Courcegoul. S'il fallait tous aller dans le bled pour se faire recenser, l'hôtel où il doit y avoir 5 chambres serait vite plein et il faudrait que tout le monde aille dormir dans la grange, dans les granges, et on irait squatter les granges parce que le recensement ne pourrait se faire qu'à ce prix-là. Bon. Mais heureusement, ce genre de choses ne viendrait à l'idée de personne. Alors donc, Joseph... une fois qu'on a dit ça, j'allais dire, on a largement fait le tour de la question. Encore un mot quand même sur l'ancêtre le plus illustre de Joseph, donc le roi, et le roi le plus illustre, c'est David, plus encore dans le, j'allais dire, dans l'inconscient populaire, plus encore que Salomon son fils, c'est que à ce David, mais quand on est charpentier, on n'est pas théologien, hein, donc il paraît que si on étudie bien les textes, à ce David, Dieu avait promis une descendance royale, donc une dynastie royale qui, alors c'est les textes, hein, qui ne prendrait jamais fin. Bon, sauf que la dynastie en question, elle a vite été évacuée du trône, donc plus personne ne croit à cette dynastie éternelle, puisque précisément il y a eu trois membres de la famille de David qui ont vaguement, enfin de plus en plus difficilement occupé le trône, et après ils se sont fait débarquer au profit d'autres, et ça fait bien longtemps qu'on ne parle plus de cette famille-là comme d'une famille potentiellement régnante en Israël, et puis de toute façon, au point où on en est, c'est-à-dire occupée par les Romains, qui sont là apparemment pour un moment, c'est pas demain matin qu'un descendant va monter sur le trône. Donc Joseph, il ne se fait aucune illusion, il sera jamais roi, il sera charpentier toute sa vie, et on n'en parle plus. Voilà. On a fait le tour de... Alors, on a fait le tour. On a presque fait le tour. Il reste deux choses à dire à propos de Joseph. J'allais dire une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle ? On est bien obligé de commencer par le début. Non, la bonne nouvelle, c'est qu'il a un point commun avec Nicolas. Il vient de trouver la femme de sa vie. Alors évidemment, c'est la plus belle. Alors il s'est fiancé. Enfin, c'est plus que des fiançailles au sens où nous, on l'entend. C'est un mariage qui ne doit plus être concrétisé que par le fait de faire une grande fête, ça, on n'aura jamais une occasion, et puis surtout, on va habiter ensemble. On va habiter ensemble, mais on est plus que des fiancés. La preuve, c'est que dans le texte, on dit, l'ange va dire, n'aie pas peur de prendre ton épouse. C'est déjà son épouse, parce que c'est des fiançailles renforcées. Sauf que, on ne cohabite pas encore, et puis... comme on est dans une morale très, très stricte, pour l'instant, on s'abstient d'avoir des relations sexuelles. Sauf que, et ça c'est la mauvaise nouvelle, Marie, elle n'a pas sa forme normale. Et là, y a les gens du village qui se disent... Pas très patient, Joseph, hein. Il n'a pas pu attendre, hein, quand même, ce que c'est que la nature humaine. Hein. Il a fallu qu'il anticipe. Hein. Ils n'habitent pas ensemble, mais bon, ça n'a échappé à personne. Elle n'a pas la taille fine. Hein. Sauf que Joseph, lui, il sait ce qu'il a fait et surtout ce qu'il n'a pas fait. Donc il sait que ce n'est pas lui. Et donc ce que le texte nous dit, c'est que Joseph se retrouve devant cette réalité qui lui saute à la figure, c'est que la femme qui est la sienne et avec laquelle il n'a pas eu de relation sexuelle est enceinte. Mettez-vous deux secondes à sa place, c'est pas facile, enfin c'est pas une bonne nouvelle. Alors, et le texte en parle, hein, c'est pas moi qui invente, il y a deux façons de réagir. Il y a la façon normale de réagir. La façon normale, je dis bien, c'est que on l'attrape par les cheveux. On la traîne jusqu'à la place du village en la traitant de salope, le plus fort possible, pardon pour le mot, mais c'est la réalité, mais il ne faut pas avoir peur des mots, au point que tous les hommes du village vont sortir de chez eux pour savoir ce qui se passe, et tous les hommes du village qui vont savoir ce qui se passe, regardez, c'est ma femme, on devait cohabiter, sauf qu'elle est enceinte alors que je ne l'ai pas touchée, et bien, pour les plus courageux, on prend des pierres, et puis on lui balance ça sur la tronche, ça va lui faire les pieds. Soit elle en réchappe, mais dans quelles conditions et avec quelle réputation? Soit elle n'en réchappe pas et l'affaire est pliée. Et puis tous ceux qui ont lancé des pierres, tous les hommes sont satisfaits de se dire que ça aura servi d'exemple pour leurs femmes à eux qui sont restées à la maison, mais qui vont savoir qu'il y a des choses qui ne se font pas. Hein, Donc ce n'est pas perdu. Ça, c'est l'hypothèse normale. Des lapidations, et tout le monde ici sait que Jésus en a empêché une, mais des lapidations, je ne vais pas dire qu'il y en a tous les jours, mais ce n'est pas rare. Le fait de voir une femme se faire traîner par les cheveux jusqu'au centre du village et tous les hommes s'acharner sur elle à coups de pierre, c'est barbare. Ça nous paraît, évidemment, c'est un autre monde, mais c'est la réalité. Et Joseph, il va s'inventer, et c'est ça qui fait de lui quelqu'un de pas si ordinaire que j'ai bien voulu le dire, il va s'inventer une autre possibilité. Il va dire, il y a ça effectivement, mais est-ce que, parce que le fond de la pensée de Joseph, c'est ça, et c'est ça qui est merveilleux, le scénario que je viens de décrire, est-ce que c'est ça que je veux pour la femme que j'aime? Parce qu'il l'aime. Elle est dans cet état, certes, mais il l'aime. Est-ce que c'est ça que je veux pour elle? Est-ce que je veux vraiment que la justice, parce que c'est juste pour ces gens-là de procéder comme ça, est-ce que je veux que la justice écrase l'amour? Ou est-ce que je suis capable d'inventer une solution qui va faire qu'au contraire, l'amour va être plus fort que la justice? Ça ne vous parle pas, ça? C'est pas ce qu'a dit Daniel il y a 5 minutes. Heureusement que quand Dieu m'a regardé, il s'est dit ça aussi. Est-ce que j'applique la justice et je le carbonise, ou est-ce que j'invente une solution pour que, tout en étant juste, l'amour soit le plus fort? Et il l'a inventé. Et c'est ça, alors ça je veux bien le fêter avec vous tous les jours, je veux bien que ce soit tous les jours Noël. La fête de l'imagination dont Dieu a fait preuve pour que l'amour soit plus fort que la justice envers moi. Et la solution, bien sûr, c'est au lieu de dire « lapidez-la et je me joins à vous », c'est de dire discrètement « je vais la répudier ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je vais prendre la charge de la faute. Je vais passer pour le salaud. Parce que dire d'une femme enceinte, et dont tout le village soupçonne que c'est toi qui l'as mis enceinte, j'en veux plus, bonjour l'élégance, hein. Mais en faisant ça, Joseph, il prend effectivement la charge de la faute. Parce que c'est lui qu'on va montrer du doigt maintenant. Ça va être lui, le sale type, qui a osé mettre sa fiancée enceinte et la larguer après. Et puis ça ouvre une autre possibilité pour Marie. C'est que il y a bien un responsable de tout ça, hein? Donc, Marie, au lieu d'être la paria du village, si elle en réchappe, si les pierres n'ont pas totalement raison d'elle, ça laisse la porte ouverte, puisqu'elle en a aimé un autre que moi, au point qu'elle est enceinte de lui, lui, il va pouvoir prendre ses responsabilités. Et lui, en plus, à qui j'ai toutes les raisons de casser la figure, il va passer pour le mec bien, pour le mec qui va demander en mariage une fille déjà enceinte que son horrible fiancé a larguée. C'est tout ça qui se passe dans la tête de Joseph. C'est tout ça l'amour de Joseph pour Marie, l'amour plus fort que la justice. J'oublie pas que pour que l'amour de Dieu envers moi soit plus fort que sa justice, il a fallu qu'il y en ait un qui passe pour le moins que rien qui s'est pris pour Dieu, au point d'être condamné à mort et exécuté. C'est ça le prix. Quand Dieu dit « mon amour pour lui, en parlant de moi, sera plus fort que ma justice », ça ne lui coûte pas rien. Voilà ce que Joseph est prêt à faire. Voilà tout ce que Joseph est prêt à faire. Et c'est à ce moment-là, Et ça, ça, inutile de vous dire que ça en fait un type pas ordinaire, quand même. Parce que, bon, ça a beau passer pour des histoires, mettez-vous deux secondes, vous les hommes dans la peau de ce gars et vous les femmes dans la peau de cette femme, facile à dire, hein. Mais vas-y, toi, passez pour le salaud alors que c'est l'autre. Et heureusement, à ce moment-là, Dieu va parler à Joseph et lui dire « Attends, on se calme, l'enfant, il est de moi. » Et détail qui me plaît beaucoup, mais je reconnais là le Dieu que je connais, détail qui me plaît beaucoup, l'ange ne se manifeste pas à Joseph au moment où c'est plié, c'est-à-dire au moment où Joseph n'a plus le choix. Joseph a le choix. Dieu ne prend pas les décisions à notre place. Dieu ne prend pas la décision à la place de Joseph. Et je vais utiliser une expression qui va vous choquer, pardon, j'ai déjà dit un gros mot tout à l'heure, décidément c'est la journée. Dieu ne fait pas à Joseph un enfant dans le dos. Je te parle, Joseph, à un moment où tu as encore le choix. Tu as l'hypothèse la plus radicale, c'est-à-dire, alors je reprends les termes, hein, diffamé publiquement, avec les conséquences que l'on sait. Deuxième hypothèse, c'est la tienne, répudié secrètement. Et puis je t'offre une autre hypothèse, mais tu es libre, tu es libre. Je ne t'annonce pas ça une fois que c'est plié. Je te le dis et je mets ça devant toi au moment où encore tu peux décider. Tu fais ce que tu veux. Et moi, je te dis, cet enfant, il est de moi. Est-ce que tu acceptes d'en assumer la paternité? N'aie pas peur. N'aie pas peur, mais choisis librement. Choisis librement. Tu peux en assumer la paternité, si tu le veux. Si Joseph, et tout ça, ça se passe en rêve, en plus, parce qu'on dit à son réveil. Donc, à son réveil, moi, peut-être que je me serais dit, faut que j'arrête de picoler. C'est aussi un appel à la foi. Est-ce que tu crois que c'est vraiment le message que je t'ai envoyé? Alors, s'il le croit, et il se trouve qu'il le croit, Joseph, qui n'est quand même pas idiot, se dit, si vraiment c'est le Fils de Dieu, et si j'en accepte la paternité, ma vie, qui était ordinaire jusqu'à maintenant, elle n'a plus aucune chance de l'être. Elle n'a plus aucune chance d'être ordinaire. Et mon propos ce matin, c'est de dire ça, juste ça, et rien d'autre. C'est que Joseph, qui est un bon juif, comme des milliers, des centaines de milliers, peut-être pas des millions à l'époque, parce que la population n'est pas si... Mais bon, comme plein de gens, comme des chrétiens sont de bons chrétiens, comme des milliers, comme des centaines de milliers, comme aujourd'hui des millions de gens, Dieu fait partie de la vie de Joseph. Il a intégré Dieu dans sa vie. Effectivement, il a décidé que si un jour il a un fils, et là pour le coup ça s'annonce, si un jour il a un fils, conformément à ce que sa religion prescrit, le fils, il va l'emmener à Jérusalem, au temple, pour être présenté, parce que c'est le premier-né des garçons. Présentation au temple, bien sûr. Les fêtes, il va y aller, bien sûr. La synagogue, il y va. Sans doute, il prie. Sans doute, parce que tout le monde apprend à lire dans ce qui est aujourd'hui pour nous l'Ancien Testament. Tout ça, il le fait scrupuleusement. C'est un type bien, Joseph, comme des chrétiens sont des gens bien. Dieu fait partie de sa vie et de son identité, comme Dieu fait partie de ma vie et de mon identité. J'ai Dieu dans mon histoire. Et là, tout d'un coup, Dieu vient lui dire, je fais partie de ton histoire, est-ce que tu veux faire partie de la mienne? C'est tout autre chose. C'est-à-dire, tu vas avoir comme... Plein d'autres l'ont entendu, et avec cette formule en ce qui concerne Pierre, jusqu'à maintenant, C'est toi qui décidais de rentrer et de sortir, c'est-à-dire tu mettais ta ceinture. Et maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui te mettra ta ceinture et qui t'enverra là où tu ne veux pas aller. C'est ça, la vie des gens hors norme, parce que ça, c'est pas la norme. La vie des gens qui, non seulement ont Dieu dans leur histoire, ont fait rentrer Dieu dans leur histoire, ce qui est le propre de tous les chrétiens, mais sont entrés dans l'histoire de Dieu en réponse à son appel. Dieu dit à Joseph, « Je fais partie de ta vie, veux-tu faire partie de la mienne ?» Et là, avant de répondre, il faut sacrément réfléchir, parce que facile de dire, bah oui, coup de bol, ça y est, je suis un élu, et tu parles. Élu pourquoi? Ça va lui rapporter quoi, Joseph, d'élever un gamin qui n'est pas le sien? Ben, lisez la suite, hein. Charpentier, artisan, ça marche pas mal, parce que tout le monde me connaît dans le village, mon père, mon grand-père, machin, donc je me suis fait ma petite clientèle, et puis la charpente, on sait bien que, hein, pas de chômage, hein, c'est toujours des... Donc, on ne fait pas fortune, mais ça va, on ne se plaint pas. Ouais. Eh bien, tu vas te barrer en Égypte pour sauver la vie de l'enfant. En Égypte. On est vachement bien vus, nous, en Égypte. Parce qu'ils se souviennent qu'avant, on était leurs esclaves, hein, quand même. Donc, c'est le Sénégalais qui vient en France, sauf qu'en plus, il ne parle pas la langue. Bon. Et toujours en rêve, hein. Je rêve qu'il y a un ange qui me dit « Allez, tu prends ta petite famille, tu vas en Égypte. » Ouais, pas sûr qu'ils attendent un charpentier juif en Égypte, hein ? Bon, mais enfin, puisqu'il a dit, on y va. Et puis, en Égypte, on finit par apprendre la langue, on se fait son trou, on est débrouillard, on montre que, techniquement, on tient la route, bon. Ah, mais tu vas retourner. Alors, le rêve, ça y est, j'ai commencé, je parle la langue, tout ça... Je suis un migrant intégré. Et re un rêve, il faut retourner. En... Bon. Parce que ceux qui en volent à la vie de l'enfant sont morts, donc tu peux y aller. Ouais. Bon. Et puis re rêve, ah oui, mais tu ne retournes pas parce qu'il y a Archélaüs qui a succédé à Hérode et ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc tu vas t'installer à Nazareth. Ouais. Très bien. Mais vous avez remarqué qu'à chaque fois, alors, ce n'était pas son plan de carrière à Joseph, hein, inutile, enfin, je ne vais pas en faire des tonnes, mais vous avez compris que ce n'était pas son truc à la base. Les voyages, puis voyager, enfin, traverser un désert avec un gamin qui vient de naître. Bon, tout ça pour dire quoi? Mais tout ça pour dire que Joseph qui dit oui, j'accepte, oui, je suis d'accord. Que c'est ça, la proposition de Dieu, et ça n'est qu'une proposition. Est-ce que tu es d'accord? Et à chaque fois, il aurait pu répondre non. Il aurait pu dire, bon, moi, déjà, j'ai assumé la paternité de l'enfant, mais alors m'expatrier en Égypte, nada, donc je reste là. Donc, l'enfant n'aurait pas survécu, puisque vous savez ce qui s'est passé à ceux qui sont restés. Ou alors, je suis en Égypte, je m'y trouve bien, et donc, pas question de revenir, parce qu'on ne va pas faire l'essuie-glace tout le temps, hein. Donc maintenant que j'ai frou, et donc, bah, voilà, Jésus aurait vécu en Égypte toute sa vie. Non mais, et puis Nazareth, bon, il aurait pu dire non à chaque fois. À chaque fois, il est libre. À chaque fois, c'est juste un rêve. Juste un rêve. Mais à chaque fois qu'il dit, je suis d'accord, eh bien, il y a une prophétie qui s'accomplit. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Il sera appelé le Nazaréen. À chaque fois, c'est pas un caprice de Dieu. C'est pas un caprice, non, c'est le projet de Dieu qui se réalise. Et qui se réalise grâce à un homme d'une banalité affligeante à première vue, mais qui dit « Je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord pour ne pas être seulement un type religieux, un type qui va à la synagogue ou qui va à l'église aujourd'hui, pas seulement un type qui prie, pas seulement un type qui lit sa Bible et qui même essaye de l'étudier autant que faire se peut, pas seulement ça, mais un type qui dit « oui, je suis d'accord » quand Dieu lui dit Et à chaque fois que Dieu lui dit, est-ce que tu veux entrer dans mon projet? Et ça, ça fait de Joseph un type absolument hors norme. Parce que ce n'est pas la majorité. L'insécurité, elle est intrinsèquement liée à cette attitude-là. J'en ai parlé, plus de boulot assuré, plus de stabilité géographique, plus de stabilité sociale, un décalage culturel en Égypte extrêmement défavorable. Tout ça, il faut peser le pour et le contre. Et c'est sympa de rêver des trucs, surtout de rêver que Dieu te parle. Mais, comme disait encore Daniel il y a quelques minutes, c'est pas si facile que ça, concrètement, de répondre à l'appel de Dieu. C'est forcément compliqué. Ça serait trop beau, mais ce serait nul en même temps, si Dieu nous offrait une vie plus facile, plus simple, plus confortable, si on répond à son appel que si on n'y répond pas. Tiens, tu parles. Évidemment que ça n'est jamais comme ça. Évidemment que dire « oui, je suis d'accord », c'est renoncer à du confort, c'est renoncer à de la facilité, c'est renoncer aux rails sur lesquels inévitablement on se construit une vie. Est-ce que tu es d'accord pour dérailler au bon sens du terme? Alors, mettre Dieu dans mon histoire, encore une fois, c'est facile, et c'est le propre de tous ceux qui se disent chrétiens sur cette planète. Me mettre volontairement en acceptant dans l'histoire de Dieu, c'est tout autre chose. Je ne veux pas être trop long, il y a deux conditions pour le faire. Il y a deux conditions qui sont évidentes quand on lit le texte, mais je vais quand même les dire, ça ne vous a pas échappé. La première, c'est d'écouter Dieu. Joseph, il a entendu ça parce que dans son rêve, il a écouté. Il a écouté parce qu'il était capable d'écouter. Pourquoi Joseph plutôt qu'un autre? Pourquoi ce type qui a ni une intelligence, ni une capacité de travail, enfin, il n'a rien d'exceptionnel humainement. Il a quelque chose d'exceptionnel dans sa spiritualité. C'est que il est capable d'entendre Dieu lui parler. Il y a deux façons de ne pas être capable d'entendre Dieu nous parler. Deux façons diamétralement opposées, mais qui ont la même efficacité, malheureusement. C'est les murs anti-bruit et c'est le vacarme. Beaucoup d'entre nous, en tout cas moi parfois, souvent, trop souvent, comme le monde autour de nous qui dit bah, « Dieu est étonnamment silencieux, Dieu devrait parler aux hommes tout le temps, et nous avons quand même un Dieu extrêmement silencieux. » Et Dieu répond à ça, mais ce n'est pas moi qui suis silencieux, c'est vous qui êtes sourds comme des pots. Vous ne m'entendez pas. Vous ne m'entendez pas parce que vous avez construit entre vous et moi, alors soit des murs anti-bruit, et sur chaque mur on peut mettre un nom. Jésus a rencontré un type à qui il a dit « viens avec moi », enfin plusieurs à qui il a dit « viens avec moi ». Dans beaucoup de cas qui nous sont relatés, ça s'est plutôt bien passé. Et en fait, quand on dit les disciples qui sont devenus des apôtres, c'était des types ordinaires, parce qu'il est allé les chercher au bord du lac, c'était des pêcheurs, c'était le type qui était au change, c'était, bon, oui, des types ordinaires, comme Joseph, des types qui n'ont rien de spécial a priori, à première vue, sauf que leur particularité, ce qui fait que ce sont des gens hors normes, c'est que quand Jésus leur dit « Viens avec moi », c'est-à-dire « Ne te contente pas de m'avoir dans ton histoire, entre dans la mienne, ne te contente pas de m'avoir dans ta vie, entre dans ma vie », ils sont capables de dire oui. Est-ce que je suis capable de dire oui? ne faut pas répondre trop vite à cette question-là. Parce que, volontairement, la Bible nous donne l'exemple d'un type incapable de dire oui à ça. Son mur anti-bruit, à lui, il s'appelle patrimoine. Il s'appelle patrimoine et il n'est pas capable de dire « j'entre dans l'histoire de Dieu et pas seulement Dieu dans mon histoire parce que ça va lui coûter son patrimoine. Vends tout ce que tu as et viens avec moi. » Ah ben non, par contre. Non. Non, pas débarrasser de tout ça, quand même, j'y tiens. Alors ça, c'est un mur anti-bruit. Mais confort, position sociale, famille, tout ce que vous voulez. Quand Jésus dit « Celui qui n'est pas capable de me préférer à tout ça, eh ben, il n'est pas fait pour moi, il n'est pas fait pour venir avec moi. » C'est extrêmement sévère comme propos, mais ça veut dire ça. Ça veut dire, si vous préférez l'un quelconque des murs anti-bruit que vous êtes capable de construire plutôt que de m'entendre, eh ben, vous ne m'entendrez pas. Et puis, il y a des murs anti-bruit qui ont des noms autrement plus... j'allais dire plus cabreux, mais on sait bien, et on est chacun pour sa part capable individuellement de nommer nos propres murs anti-bruit. On sait bien qu'il y a des choses dans nos comportements, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes qui nous empêchent d'entendre Dieu nous parler. C'est pas qu'il ne nous parle pas. C'est pas qu'il est silencieux depuis des années, des décennies, des siècles. C'est que nous sommes capables d'édifier entre lui et nous. Alors soit des murs anti-bruit, soit de laisser s'installer un vacarme qui nous empêche de l'entendre au milieu du reste. C'est tellement confortable, le bruit ambiant, au sens spirituel du terme, bien sûr. Alors, la première des conditions, c'est cette capacité d'écoute. Est-ce que je suis capable d'entendre Dieu ? Après, je réponds ou je ne réponds pas. Mais est-ce que dans un premier temps, je suis capable de l'entendre ? Est-ce que je n'ai pas créé les conditions pour que sa voix n'arrive pas jusqu'à moi ? C'est aussi une question qu'on a le droit de se poser. Et la deuxième, effectivement, c'est non seulement la capacité d'écoute, mais la capacité de dire oui. La capacité de voir que même si forcément ça va être beaucoup plus compliqué, forcément ça va être... Et aucun de ceux qui ont dit « oui, je suis d'accord » et dont la Bible nous donne l'exemple, et il y a des dizaines d'exemples, aucun de ceux-là, aucun, ça c'est une règle absolue, n'a eu une vie plus confortable après qu'avant. Pensez à Paul, pensez à Pierre, pensez, et je peux les égrener tous, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Pensez évidemment à toutes les grandes figures de l'Ancien Testament. Aucun de ceux qui ont dit à Dieu « oui, je suis d'accord » n'a eu une vie confortable. Jamais Dieu nous a promis ça d'ailleurs. Jamais il a promis à ses disciples. Vous allez voir, vous allez vous la couler douce, la vie sera un long fleuve tranquille. Alors Jésus, c'est le contraire de ça. Et venez avec moi, bienvenue à bord du Titanic. Sauf que c'est pas pour notre perte, c'est pour notre salut. Et c'est pas pour la perte des gens qu'on va côtoyer, c'est pour leur salut. Grâce à ça, et encore une fois, Joseph, à chaque fois qu'il va entendre et qu'il va dire « oui, je suis d'accord », il a sans doute pas conscience, ça c'est le texte qui après le dit, l'explicite, il n'a pas conscience de réaliser des prophéties séculaires, parfois millénaires. Il n'a pas conscience que le projet de Dieu pour l'univers entier, là encore tu parlais de salut de l'univers, mais le projet de Dieu pour l'univers entier, ça passe par ce petit charpentier qui n'est rien. Et pourtant, à chaque fois qu'il dit « oui d'accord » et qu'il le fait, surtout, la Bible nous dit, et c'est comme ça que la prophétie s'est accomplie. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Il sera appelé Nazaréen, etc. Alors, le problème, c'est que quand on dit « oui, je suis d'accord », on ne sait pas à quoi on s'engage. Évidemment, Dieu le sait. Et heureusement, Dieu ne dit jamais tout tout de suite. Il aurait dit tout ça à Joseph, il aurait tout balancé dès le premier rêve. Tu vas déménager en Égypte, tu vas tout ça, tu vas revenir, tu vas te planquer, tu vas... C'était trop. Donc, au compte-gouttes. Il aurait dit à Paul, Saul de Tarse à l'époque, dès le premier jour, voilà tout ce qui va t'arriver, que Paul raconte après, hein, en disant, j'ai eu ma dose, hein. Ça m'a coûté cher de le suivre. Hein. Moi qui suis malade en bateau, parce que manifestement, il a un problème avec ça, Paul. À chaque fois, il dit, ah non, mais... les naufrages, ça va, quoi. Marqué, bon, mais il aurait eu droit à tout ça le, même... il aurait eu droit à tout ça le premier jour, mais... Non, tu me mets en perspective une vie, alors je ne vais pas dire un gros mot de plus, mais une vie détestable jusqu'à mon dernier souffle, faut pas me balancer tout le même jour, sinon évidemment c'est au-dessus de mes forces. Deux exemples récents, j'ai parlé, vous savez, du problème des veuves, okay, et du coup on choisit 7 types. Qui sont chargés du service. Puis là, c'est même pas l'appel de Dieu en rêve, non, c'est « tu veux bien faire le service ?» Voilà, « vous voulez bien faire le service ?» Et on nous dit, et ça peut paraître curieux au départ, quand même qu'il y a des critères de recrutement. Il faut que ce soit des gens remplis d'Esprit Saint, etc. Tu parles pour débarrasser la table, Esprit Saint, merci, quoi. Et en fait, il y en a deux dont on nous parle après, et dont on nous dit... Et dont on nous dit, et c'est Philippe et Étienne, c'est pas pour rien qu'ils ont été sélectionnés. C'est pas pour rien qu'ils ont été choisis comme des gens remplis de l'Esprit Saint. Parce que c'est des gens qui sont capables d'entendre Dieu leur parler. Et au-delà du service à table, quand Dieu va dire à Étienne, voilà ce que tu dois faire, et on sait que ça va lui coûter la vie, parce que dire « je suis d'accord », alors pas à chaque fois et heureusement, mais ça peut être « oui, je suis d'accord » prononcé par Étienne, avec très rapidement la mort à la clé, et une mort pas agréable. Il y a aussi Philippe dans les sept. Philippe qui va dire à Dieu « oui, je suis d'accord », quand Dieu va lui dire « il y a un Éthiopien, court derrière son char et rattrape-le. » Oui, bon, un Éthiopien, en même temps. Et le projet de Dieu, c'est que le premier, bien avant la Grèce, bien avant l'Italie, enfin, Rome, bien avant la Gaule, le premier pays au monde qui a été majoritairement chrétien, c'est l'Éthiopie. Parce que Philippe, qu'on avait sélectionné pour servir... à table, il a dit « oui, je suis d'accord ». Ben alors cours derrière cet Éthiopien et explique-lui ce qu'il est en train de lire et qu'il ne comprend pas. Et puis après, voilà, exit Philippe. J'attendais ça de toi, tu l'as fait, c'est tout, je t'en demande pas plus. Tu vas pas mourir martyr, toi, contrairement à Étienne. Tu vas pas passer ta vie à faire naufrage. Non, ça y est. Toi, je te demandais juste ça. Tu l'as fait, c'est bien. Après, tu peux reprendre ta vie normale. Tu m'as dit, oui, d'accord, au moment où j'attendais ça. Alors, je n'ai fait ce matin, et je m'arrête là, que partager avec vous ce que je ressens, ou ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire ce fossé qui existe entre mettre Dieu dans sa vie, ce qui est, somme toute, assez facile. Hein. De toute façon... Moi, le dimanche matin, si j'étais pas venu, j'aurais pas couru dans les bois, puisque ça me saoule. Donc ça ou la télé, enfin, c'est pas trop compliqué d'ouvrir la Bible, c'est passionnant, donc c'est pas trop compliqué de la lire, de l'étudier. Et puis prier, ça fait du bien aussi, on se fait du bien en priant. Donc si c'est que ça, si c'est mettre Dieu dans sa vie, on y arrive, c'est à ma portée. Par contre, me mettre dans la vie de Dieu, me mettre dans son projet... Ça, c'est pas à ma portée. Ça nécessite que il me donne la capacité de le faire. Et Et c'est cette prière-là que je voudrais faire en mon nom et peut-être aussi au vôtre, c'est-à-dire, rends-moi capable de te dire « oui, d'accord » quand le moment sera venu. Alors encore une fois, ce n'est pas forcément pour mourir un martyr, ce n'est pas forcément pour avoir une vie d'aventure à la Paul ou à la Pierre avec à la clé encore une mort pas naturelle. Non, c'est t'es chrétien, t'occupes ta chaise, bon, jusque-là c'est bien. Mais moi je te dis, il y a par exemple quelqu'un dans ton environnement, dans ton entourage, soit dans ta famille, soit dans ton milieu professionnel, soit dans l'église, quelqu'un qui attend une réponse de ma part. Eh bien, cette réponse, c'est à toi que je demande d'aller lui donner. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu m'entends quand je te demande ça? Est-ce que tu crées les conditions au quotidien pour être capable de m'entendre le jour où je vais te demander quelque chose? Où je vais te demander d'entrer dans mon projet? Est-ce que tu ne seras pas sourd ce jour-là à cause des murs que tu as édifiés? Ou à cause du vacarme dans lequel tu te complais? Est-ce que tu vas m'entendre et est-ce que tu vas dire « oui, d'accord » Je te demanderai peut-être que ça, donc ne rate pas l'occasion. Tout ça, c'est des choses que je me dis à moi. Quel aurait été le destin du jeune homme riche dont j'ai parlé tout à l'heure s'il avait été capable de dire à Dieu « oui, d'accord » au lieu de dire « ah ben non, parce que pas me débarrasser de tout ce patrimoine, quand même, il y en a pour du pognon hein. ». Quel aurait été son destin? Qu'est-ce que Jésus en aurait fait comme disciple et peut-être comme apôtre, qui sait? Voilà, j'ai voulu livrer ça à notre réflexion commune, mais pour ce qui me concerne, je demande au Seigneur de me donner cette capacité-là.